Midi, chers amis, on est donc au dernier volet de cette relecture. Après quatre sections qui ont été consacrées à des thèmes, les principaux que les organisateurs ont retenus dans l'œuvre de Vernant, cette section est consacrée à la réception et au rayonnement de l'œuvre de notre ami J.P. J'ai accepté, comme mes collègues volontiers, après réflexion, la responsabilité de cette présidence, éphémère comme toute autorité académique. Dans l'université, c'est comme dans la vie. Et il y a des choses qui, comme la chanson le dit, pour les plaisirs, ne durent qu'un moment, tandis que les chagrins, comme hélas, bien d'autres choses, durent toute la vie. La fonction de la mémoire que nous évoquons ici, tous ensemble, fait que nous essayons de prolonger une présence chaleureuse et souriante, une présence qui a changé la vie d'une partie de ceux qui sont présents et qui peut exercer, qui peut continuer à exercer une fonction positive dans la vie des autres. Je suis là en tant qu'un des copains, comme un des états-héros du guerrier, qui avait la parole de Nestor, l'intelligence rapide d'Ulysse, la force et en même temps la capacité d'aimer qui était d'Hector. Ce n'est pas un cas que dans l'Iliade, la douleur pour la mort des copains cherche une solution collective, une élaboration qui prend des formes, pensée à l'avance, mais vécue en pleine sincérité des sentiments. Comme le poète chante son message et respecte les formes et même les formules de la diction, le guerrier respecte les rituels à la guerre comme à la fin de la vie. Un grand merci donc de ma part aussi à celles et à ceux qui ont conçu cette relecture collective, aux institutions, le collège, l'école pratique, les centres, et à ceux qui les dirigent. Un grand merci à Evcharisto Poli, à Stella, que j'ai senti, peut-être je me trompe, mais je l'ai senti comme l'âme généreuse, comme le cœur pulsant de l'entreprise et qui m'a reporté au temps premier de notre connaissance. Elle, venue de la Grèce, passée par l'Italie, établie enfin en France, qui a su toujours faire le boulot nécessaire. J'ai lu son nom la première fois, remercié par JP pour l'index, très bien fait par ailleurs, de l'anthropologie de la Grèce antique de Louis Gernet. Avant de la connaître et d'apprécier sa compétence, mûrie à côté de JP, mais aussi de Marcel Détienne, à la cinquième section, dans un domaine, la religion des Grecs, où tout a changé au cours de notre vie. Mais ce qui a été le plus important pour nous, comme l'était pour JP, j'ai toujours su qu'elle était de ceux et de celles qui aiment, comme l'a dit le poète, qui aime Eleftheria ke Irini, la liberté et la paix. Merci Stella, au nom de tes copains et de tes amis. Je viens donc à ma tâche si légère. Je viens au plaisir des trois présentations. J'introduis avec une joie sincère Philippe Rousseau, en tant que confrère helléniste que je sens uni par l'amour pour Homère, comme homme d'université, comme homme engagé dans le siècle, du côté que moi aussi, modestement, j'aime, ce qui nous rend deux fois confrères. Sa présence ce soir, jointe à la présidence si gentille dans ces mots d'ouverture de Fabienne Blaise ce matin est un moment important de cette rencontre. Ce moment comble un vide duré longtemps. Il y a des distances qui ne tiennent pas compte de la géographie. Lille n'est pas très loin de ce Paris où nous sommes maintenant. Mais il y a les écoles. Il y a une école de Lille, une école de Paris. Et alors, je rends hommage à l'école de Lille, à sa philologie et à son herméneutique. Nous tous, nous écouterons avec respect, participation et gratitude ce que le professeur Rousseau voudra nous dire. Bienvenue, cher.
Merci, monsieur le Président. Mesdames, messieurs, permettez-moi d'abord de remercier très vivement les organisateurs du colloque Relire Vernon pour l'honneur qu'ils m'ont fait en m'invitant à participer à cet hommage que nous rendons ici aux chercheurs, à l'helléniste. J'ai eu l'occasion en d'autres lieux d'évoquer, pour lui rendre également hommage, d'autres aspects de la personnalité et de la vie de Jean-Pierre Vernon. Mais je suis particulièrement heureux de m'associer ici à une commémoration qui prend la forme d'une relecture de son œuvre et, plus précisément, pour moi, d'une relecture de Vernon, lecteur des Grecs, de leurs textes, de leurs mythes. Mon plaisir est d'autant plus grand, au-delà de l'immense admiration que j'éprouve pour un savant dont les hellénistes n'ont pas encore pleinement pris la mesure de ce que leur discipline lui doit, que la discussion entre l'herméneutique des Bolakiens de Lille et les lectures anthropologiques de l'équipe que Vernon avait assemblée autour de lui n'a pas toujours été menée, en dépit de tout ce qui poussait les uns et les autres à se rencontrer, sans réticence ni malentendu. Et qu'il n'a pas manqué à l'occasion, en dépit de l'amitié et du respect mutuel, le piment contestable de ce que Grégory Nagy a décrit un jour pour d'autres secteurs comme un odium philologicum. Le point de vue auquel je me placerai pour réfléchir sur les voies que Vernon a ouvertes à la compréhension des textes grecs est en effet celui d'une philologie herméneutique et critique attachée à comprendre le sens des œuvres poétiques ou philosophiques de la Grèce dans leur singularité. Je reviendrai plus loin sur les différences connues qui sépare ce projet de celui de l'école vernantienne, convaincu à la fois que ces différences et les débats qu'elles nourrissent ne sont pas réductibles et que le dialogue entre les deux manières de constituer le texte en objet de savoir non seulement ne sont pas exclusives l'une de l'autre, mais doivent se nourrir réciproquement de leurs différences ineffaçables. C'est d'abord un point de convergence forte que je veux souligner. Ce qui me frappe, c'est que Vernon lisait, et lisait attentivement, passionnément, les textes qu'il commentait au fil de ses démonstrations. De l'exigence méthodique qu'il imposait à cette lecture, qu'il s'imposait dans sa lecture, il a donné tôt, dans le contexte d'une polémique suscitée par l'un de ses écrits, une formulation exemplaire. On admet que la tâche de l'interprète est de se hisser au niveau d'une œuvre à la fois riche, complexe, systématique, possédant son type propre de cohérence qu'il faut tenter de découvrir. On se refuse toute facilité. On s'efforce, par une patiente lecture, reprise jour après jour, de rendre compte de tous les détails en même temps que de les intégrer à l'ensemble. Si une difficulté subsiste dans le déchiffrement du texte, on l'impute au défaut d'intelligence du lecteur plutôt qu'aux contradictions ou aux négligences du créateur. Cette méthode est celle qu'il revendique et met en application dans l'essai d'où sont extraites ces phrases contre ce qui était encore à l'époque une approche répandue dans l'étude des textes de la Grèce archaïque. Dans la lettre de sa formulation, elle n'est pas si éloignée des principes qui guident le travail des herméneutes de Lille. L'idée que des œuvres dont on s'appliquait à l'envi dans la grande tradition de la philologie positiviste ou dans celle plus rhétorique des belles-lettres a souligné le manque de cohérence interne, les contradictions ou les incohérences, en rapportant ces faiblesses de la construction au primitivisme de l'auteur ou aux accidents de la transmission, l'idée donc que ces œuvres, au dessin apparemment biscornu, ont une cohérence d'une autre nature que celle à l'aune de laquelle, faute de les comprendre, on prétend les mesurer, ce que Vernant désigne ici comme une cohérence propre, dont la reconstruction patiente est la tâche même et la clé de l'interprétation, sous cette forme générale, cette idée est un principe de lecture que partagent les Lillois, même si les points de vue diffèrent sur le contenu qu'il faut lui donner, le niveau auquel il convient d'en situer l'application. J'en dirai autant de la manière dont Vernant décrit la double opération articulée d'élucidation du détail et d'intégration à l'ensemble qui présente des analogies formelles avec le cercle herméneutique, ainsi que de l'affirmation que les obscurités d'un texte sont le fait de l'interprète plutôt que de l'auteur. Et l'indice ajouterait un herméneute que le texte dans son ensemble n'a pas été élucidé. Vernant a ainsi donné sens et cohérence à des œuvres ou des passages d'œuvres auxquels la tradition philologique s'était résignée à n'en pas trouver. Le mythe des races et d'Hésiode est un bon exemple de cela. Les débats auxquels l'explication de ce passage des travaux a donné lieu dans le contexte des affrontements entre partisans et adversaires du structuralisme appartiennent aujourd'hui pour l'essentiel à l'histoire, celle des sciences ou celle des disciplines. Mais la percée accomplie par Vernant dans sa lecture a déplacé radicalement les termes de la discussion. Les débats du colloque de Lille de 1989 et les contributions rassemblées dans le volume qui en est sorti quelques années après, comme beaucoup d'autres ouvrages depuis le début des années 80, en portent témoignage. Cette rupture, et c'est ce qui en fait l'intérêt, ne s'est pas faite de l'intérieur de la philologie classique. Par sa formation disciplinaire d'abord, par ses choix idéologiques et ce qu'ils ouvraient de perspectives théoriques pour l'étude du fonctionnement des sociétés, par les maîtres qu'il avait choisis, Vernant s'est trouvé en situation de projeter dans le champ des études philologiques, ou en France, des lettres classiques et de ce qui les entourait, des éclairages tirés d'autres champs disciplinaires, relevant des sciences sociales notamment, que ceux qu'il était légitime alors d'invoquer, d'où le soupçon qui a pesé et pèse encore parfois en France ou à l'étranger sur la validité de principe de ses travaux. Il n'est pas certain que les méthodes de l'anthropologie culturelle préservent les textes anciens des réductions et des assimilations qu'elles ont d'abord combattues avec l'efficacité que l'on sait. Mais au départ, cette importation de questionnements dérivés des recherches des sociologues, des ethnologues, de la psychologie sociale, des sciences du langage, etc., a permis de casser l'idée que les anciens vivaient dans un espace intellectuel en continuité avec le nôtre, contribuer à délégitimiser une assimilation génératrice des malentendus dont l'interprétation reçue des œuvres montrait les apories. La reconstruction des représentations constitutives des conceptions de la mémoire, du temps, de l'espace, de l'image, ont contraint à réviser profondément la manière dont on comprenait l'articulation de ces notions dans les textes transmis depuis l'Antiquité. J'ai employé dans mon titre le terme ou l'expression « impureté philologique ». Je l'ai fait par un emprunt indirect à un autre pionnier du désenclavement de la philologie, Gregory Nagy. Le mot revendique comme une vertu, une accusation portée contre les approches scientifiques de l'Antiquité qui cherchent hors du champ disciplinaire de la philologie traditionnelle et à l'extérieur de la Grèce, les outils intellectuels nécessaires pour comprendre les productions de la littérature grecque ou plus généralement de l'Antiquité classique. La situation a très certainement changé à cet égard depuis les années 60, en grande partie sous l'influence des travaux de Jean-Pierre Vernant et des chercheurs qui ont travaillé à proximité de lui, avec lui ou directement sous sa direction. Je rappellerai seulement l'attitude encore courante en France à l'égard des travaux de Georges Dumézil au milieu des années 60. Ce qui m'amène ici à un problème de méthode incontournable et qui n'a pas cessé de faire problème, celui de la méthode comparative dans toutes ses dimensions, entre espaces culturels différents, à l'intérieur du même espace culturel, entre textes, entre passages d'un texte. Le problème n'est d'ailleurs pas tant celui de la comparaison en elle-même, ou il n'est pas uniquement celui de la comparaison en elle-même, que celui de la manière d'utiliser la comparaison. L'approche positiviste de la question des influences orientales sur les représentations de la Grèce, lorsqu'elle échappe aux règles qui rendent une comparaison scientifiquement pertinente, lorsqu'elle se concentre presque exclusivement sur les ressemblances entre représentations que l'on rapproche les unes des autres, sans constamment s'interroger sur leurs différences, la signification de ces différences et le fonctionnement des représentations comparées dans chacun des systèmes dans lesquels elles se trouvent. Cette méthode comparative est acceptée. Elle n'a pourtant pas la pertinence de celle qu'a mise en œuvre systématiquement Jean-Pierre Vernant. On trouve en particulier dans le grand texte d'introduction à la cuisine du sacrifice des réflexions sur ce point de Jean-Pierre Vernant que je ne reprendrai pas ici, faute de temps. L'idée que les éléments de la culture forment un donné instructuré, un magma où l'on pêche des rapprochements au hasard, ou bien où l'on s'interdit des rapprochements parce que les éléments comparés appartiennent à des domaines dont on ne voit pas les rapports, cette idée est contraire à ce que les sciences de la société peuvent nous apprendre. Je voudrais maintenant, après avoir noté cette ouverture de Vernant qui lui a permis de constituer, de marquer et d'interpréter la différence fondamentale entre notre monde et le monde dans lequel ont été produites ces œuvres sur lesquelles il réfléchissait. Ce qui lui a permis aussi de construire le point de vue à partir duquel des lectures étaient possibles, de définir l'horizon dans lequel ces œuvres pouvaient faire sens. Il me paraît intéressant de m'interroger maintenant sur la manière dont les herméneutes qui s'intéressent à l'œuvre dans sa singularité sont amenées à se situer par cette approche que Vernant avait des textes. Vous me permettrez néanmoins de faire encore une remarque, et celle-ci est une porte sur la manière dont Jean-Pierre Vernant lisait et dont, au fil même de l'histoire de sa pensée, de la constitution de son œuvre, sa manière de lire, en un sens, a évolué. Par une sorte de paradoxe, si, au départ, ce qui a été si fécond dans les lectures de Vernant a consisté dans la construction et dans l'interprétation de la différence existant entre ce que vous me permettrez d'appeler l'espace mental de la Grèce archaïque et le monde, le nôtre, que pendant longtemps on a considéré comme simplement en continuité avec le monde ancien, il y a, je le disais, une sorte de paradoxe dans le fait que l'on voit Vernant parler ses textes à l'intérieur de ses propres écrits, parler ses textes de l'Antiquité, les raconter, les redire, les réécrire comme s'il les écrivait de l'intérieur, en éclairant sans doute, en faisant briller à tout moment les particularités, en faisant surgir les éléments contextuels, notionnels, qui sont propres au monde de la Grèce, en éclairant le sens, mais en même temps en le faisant comme s'il était lui-même à l'intérieur de cet espace, comme si par une sorte d'empathie, il avait pu surmonter la différence originelle dans sa pratique de lecture. Dans le maniement de son anthropologie et dans ses pratiques de lecture, à certains moments, il semble s'inscrire dans une sorte de dehors-dedans où lien du texte avec son contexte fait est constamment l'objet même de la réflexion, alors même que parfois Vernon parle comme s'il était à l'intérieur même de l'auteur. La discussion avec Vernon peut porter, à mon avis, sur la manière dont la lecture constitue l'objet de l'interprétation. Le texte poétique ou philosophique, dans la singularité de son énonciation, en face du texte comme exemple de fonctionnement de la pensée mythique ou comme illustration et manifestation de structure des mentalités. Mon attitude à cet égard est très résolument optimiste. Le dialogue est possible et il peut être fructueux. Je ne pense pas que la légitimité de l'un des deux points de vue ne puisse s'établir que sur la dénégation de l'autre point de vue, ni que leur reconnaissance réciproque implique la subordination de l'un à l'autre. Je recommande plutôt une double démarche. D'une part, la reconnaissance de la différence des problématiques qui commandent la constitution des objets, et donc, de chaque côté, la compréhension vraie des questions qui déterminent la constitution de l'objet de l'investigation menée dans l'autre côté. De l'autre, une forme de collaboration qui passe par l'assimilation critique, nécessairement constamment relancée et de part et d'autre, des résultats de l'enquête menée dans la perspective opposée. Ce deuxième mouvement lui-même a quelque chose à voir avec le cercle herméneutique. Mais je voudrais souligner tout de suite que la synthèse parfaite n'est jamais possible, que ce cercle demeure un cercle boiteux et qu'il l'est en raison même des objets auxquels il s'applique. Ces textes qui ne peuvent jamais se réduire ni dans un sens ni dans l'autre, soit à la pure création d'un esprit qui flotterait dans l'espace, soit aux conditions mentales et sociales, aux conditions anthropologiques de sa production. J'ajouterai un point. Le problème de la relation avec la tradition savante, qui est une question fondamentale dans la pratique herméneutique, se pose autrement selon que l'on occupe l'un ou l'autre des deux points de vue. Pour l'herméneutique philologique, l'histoire de la réception est constitutive de l'objet qu'elle étudie. Ou, pour le formuler autrement, le sens d'un texte ne peut pas être approché sans que soit analysée la manière dont sa réception dans l'histoire a déterminé les précompréhensions, les mécompréhensions et donc la non-compréhension que nous en avons. L'analyse ou l'herméneutique anthropologique éclaire par un autre biais, à mon sens incontournable, une dimension essentielle de l'incompréhension des textes anciens dont elles font apparaître l'altérité méconnue par l'illusion de la continuité, mais elles le font pour reconstruire les systèmes enchevêtrés de codes à l'intérieur desquels et par lesquels les textes constituent leur capacité à faire sens. Elles tendent à forclore la question du geste ou de l'attitude particulière de chaque production poétique ou philosophique, de chaque texte particulier, au regard des ensembles structurés de signification sociale dont il fait usage. Je ne prendrai que deux exemples pour essayer de montrer l'écart entre les points de vue, non pas la supériorité d'un des points de vue sur l'autre, mais l'écart inévitable des deux points de vue. Et sur un texte où, apparemment, la convergence est la plus forte. Le changement de paradigme, associé un temps au structuralisme, se manifeste de manière particulièrement éclatante dans l'analyse exemplaire du mythe des races dans les travaux d'Hésiode. La démarche illustre certains des principes fondamentaux de l'herméneutique, je l'ai rappelé tout à l'heure, celui notamment selon lequel les obscurités sur lesquelles bute apparemment l'intelligence d'un texte ne sont pas les lieux où se concentre la difficulté, mais sont plutôt les révélateurs de ce que l'on ne comprend pas véritablement le reste. Il faut dire d'abord ou répéter que la démonstration que l'on a affaire dans ce récit à une organisation cohérente de la pensée et que la succession problématique des cinq âges s'éclaire et fait sens lorsqu'on y décèle une refonte systématique du mythe ancien des âges de métal pour articuler schéma génétique et division structurale est admirable. Là où on ne lisait que les traces d'une gaucherie proprement hésiodique dans l'adaptation d'un mythe de succession des générations humaines, Vernant révèle le travail de construction d'une pensée vigoureuse, ce qui ne remet pas en cause l'héritage, mais éclaire l'usage fait du matériau hérité. Je souligne ici l'attention portée à la matière du récit, aux mots qui s'éclairent par des rapprochements. Il fait apparaître que l'inconsistance relevée dans le déclin des générations humaines, une incohérence que l'on expliquait en s'y résignant, tenait à une mécompréhension de l'organisation de chacun des termes de la série. Son explication de la construction du récit a déterminé d'une manière ou d'une autre toutes celles qui l'ont suivie, même lorsqu'elles se sont appliquées à la dépasser. Mais il faut se poser la question de ce qui est interprété. Est-ce le texte dans sa singularité ou une construction de la pensée mythique dont il s'agirait d'éclairer les significations et le mode de fonctionnement? Dans le cas précis du mythe des races, il me semble que la balance penche en partie du côté du texte, mais il reste que le regard se porte sur l'économie mythique ou sur le sémantisme du récit, fût-ce pour en souligner les particularités, et qu'il se porte plus là-dessus que sur le mouvement discursif qui détermine le texte et qui commande véritablement le sens du texte. D'où la tentative problématique, à mon sens, de Jean-Pierre Vernant, de durcir la division du cinquième âge entre son présent et son avenir lointain, au-delà de la durée de vie de Persès et d'Hésiode, pour rendre compte de la logique interne d'un texte dont les règles de fonctionnement sont très certainement autres. Et je me rapprocherai ici, sur ce point, de l'argumentation développée par Michel Crubulier dans sa contribution au volume « Le métier du mythe » ou bien de la démonstration qu'a donnée Claude Calam dans l'analyse récente qu'il a proposée du texte d'Hésiode. Et cela, Calam, comme Crubulier l'a souligné avec force dans l'article évoqué plus haut, le logos des âges de l'humanité s'inscrit dans une argumentation dont la force discursive ne peut pas être ignorée. Il n'est pas séparable de ce qui le précède et le suit. L'enjeu est de persuader les interlocuteurs que la fiction des travaux se choisit, c'est-à-dire Persès et les Basileis, de changer leur manière d'agir pour échapper au destin dont la réflexion sur les quatre âges qui ont précédé le nôtre montre qu'il est inscrit dans le fonctionnement d'un présent emblématisé par le conflit qui oppose le prédicateur, celui que nous appelons Hésiode, à son frère. Et sur ce point, il faut être tout à fait précis, car Vernant est lui aussi conscient de cette dimension essentielle du texte, comme le montre notamment sa réponse à l'objection que lui avait adressée Defradas de postuler arbitrairement l'existence d'une sixième race. Mais ce présent, il l'entend de manière générale comme celui de la condition des hommes de la race de fer, qu'il peut rapprocher des difficultés réelles que les contemporains d'Hésiode, les petits paysans de Boébée aussi par exemple, rencontraient dans leur vie quotidienne. Ce temps se définit par le fait que les biens et les maux y sont mêlés comme sont mêlées dans la société les conditions sociales des hommes qui la composent. Mais les causes de la rupture de pente qu'introduit le vers 180 sont alors difficiles à saisir autrement que comme une prophétie arbitraire supposant une inspiration divine ou un don particulier de voyance chez l'Aède. Or, on n'est pas réduit à cette extrémité si l'on admet que tout se construit autour d'un moment qui coïncide avec les circonstances de l'énonciation du poème. Il faut en quelque sorte renverser le rapport établi par Vernant. Le « nun » se comprend en relation avec la situation de parole construite dans l'ouverture des travaux. Il s'oppose assurément, en un sens, au futur lointain dont le paradigme des quatre âges révolus permet d'anticiper l'accomplissement inévitable si les hommes auxquels la parrainesse s'adresse ne se ressaisissent pas. Mais ce déclin n'est que le prolongement des tendances inscrites dans la structure d'un présent dont les possibilités de perdurer seront bientôt épuisées si l'appel pressant d'Hésiode n'est pas entendu. Si les rois, en d'autres termes, s'obstinent à prononcer sept sentence inique dont l'imminence annoncerait pour la communauté humaine le temps des pires désastres, la dislocation des liens sociaux et partant la disette, la famine et la mort. Dans le contexte du poème, ce n'est donc pas l'âge de fer qui constitue le présent, comme le suppose l'analyse de Jean-Pierre Vernant, centrée sur le fonctionnement mythique, mais c'est le présent dans sa singularité, inscrite dans l'acte même de production du texte, dans l'énonciation du poème, qui pose et définit l'âge de fer et détermine ainsi la réfection du mythe que le même Vernant a si remarquablement mis en lumière. Je ne m'étendrai pas plus longuement sur la discussion de ce texte, j'ai simplement voulu la souligner, non pas la supériorité d'une lecture sur l'autre. La lecture de Vernant a ouvert la possibilité de comprendre le texte d'Hésiode, mais elle vise à souligner que la démarche qui s'intéresse aux fonctionnements mentaux, à la logique des fonctionnements mentaux, en lisant attentivement un texte qui en est en quelque sorte le représentant éminent, particulièrement convaincant, cette démarche va à un certain moment rendre possible l'interprétation du texte dans sa singularité, mais elle s'en tient à l'écart, elle ne le rejoint pas. Et je laisserai sur ce point-là provisoirement la discussion pour ne m'intéresser brièvement à un autre exemple. Dans « Les ruses de l'intelligence », écrit en commun avec Marcel Détienne, Jean-Pierre Vernant et Détienne analysent un passage de l'Iliade, la course d'Antiloque, dans le récit de la course des chars. Dans leur interprétation, qui est où ils suivent admirablement le texte, et c'est un des lieux où l'on voit Vernant devenir aède lui-même. Je voudrais attirer l'attention sur un point. Pour Vernant, ce récit lui permet d'illustrer, d'éclairer, d'analyser le fonctionnement d'un concept, la métisse, qui fait l'objet effectivement d'un très long développement dans la bouche du père d'Antiloque. Néanmoins, ce qu'il conclut, c'est que Antiloque, d'une certaine manière, applique le modèle de son père, et il s'interroge simplement sur les limites de cette application, puisqu'il constate qu'au résultat, la répartition des prix ne se fait pas exactement comme elle aurait dû se faire si la logique de Nestor avait été entièrement mise en œuvre par Antiloque. Il leur lève ce point, mais il n'en interroge pas la signification. Or, ce qui est caractéristique de l'épisode, c'est que Homère a inscrit dans son texte délibérément un écart entre le modèle de course défini par Nestor et qui s'oppose au modèle de course proposé par Achille à l'ouverture de l'épreuve. Et un écart donc entre ce modèle de course et la manière dont la course se joue. Cet écart est fondamental. Le mot métis n'est pas employé pour décrire la course d'Antiloque. Mais lorsqu'Antiloque l'emploie à son tour, c'est précisément pour expliquer que sa course n'a pas répondu à l'exigence de la métis. Pourquoi Homère fait-il ça? Eh bien, il le fait et pour la course d'Homèle et de Diomède et pour la course d'Antiloque. Vous avez, et contre Ménélas. Vous avez là deux figures qui s'opposent de l'excellence, de la valeur épique, la force, billet d'un côté, la métis, l'intelligence de l'autre, avec ce que cela peut représenter dans la typologie des oppositions héroïques entre Achille, par exemple, et Ulysse, dans le reste de la tradition épique. Mais je laisse ça. Ce qui est paradoxal dans ce récit de la course des chars, c'est que l'un comme l'autre des deux modèles est mis en échec par des déviations, des hasards, une sorte de perversion du cours des événements qui fait que le résultat de l'action, la victoire si vous voulez, a un élément d'opacité. Elle n'est pas transparente à la valeur des acteurs, ni à leur force, ni à leur ruse, entendu dans un sens positif. Ce qui m'amène à penser que cet épisode joue un rôle important dans la réflexion de l'épopée homérique, de l'Iliade, sur elle-même, sur le genre auquel elle appartient, sur son discours poétique propre. Et cet écart est lié, là encore, alors que l'analyse de Vernant et de Détienne éclaire magnifiquement les horizons notionnels, les réseaux notionnels qui sont utilisés par le texte. Elle le fait à partir du texte, mais elle est amenée à négliger, du coup, ce qui constitue la singularité du dire du poème homérique. Voilà la réflexion que je voulais faire pour les herméneutes que nous sommes, attachés à comprendre le sens particulier d'un texte qui, à chaque fois, se détermine à partir de son contexte, mais d'une certaine manière aussi contre son contexte, en réinventant sa poétique et en réinventant lui aussi son mode de relation avec son contexte, eh bien, cette collaboration, elle est à la fois nécessaire, mais sans que la synthèse puisse jamais être pleinement heureuse, autrement que dans le plaisir de l'amitié, de la rencontre, du dialogue, du travail en commun et du questionnement mutuel. Je vous remercie.